Bonjour. Jean-Louis vient d'apprendre que son voisin a été accidenté. Il a eu un accident de voiture, la voiture est détruite, et Jean-Louis apprend que son voisin est à l'hôpital. Il lui rend donc visite, car ils s'entendent bien, surtout depuis qu'ils ont réparé ensemble le petit muret qui sépare symboliquement leurs deux propriétés. Voici Jean-Louis devant le lit d'hôpital de son voisin, lequel sort d'une opération la veille, et il a une jambe dans un gros plâtre. Son voisin lui parle et se demande dans combien de temps il pourra reprendre son travail, et pour l'artisan qu'il est, c'est compliqué. Il s'inquiète pour sa famille aussi, d'autant plus que leur voiture est détruite. Jean-Louis ne sait pas quoi dire à son voisin, tant il a peur d'être maladroit, indélicat, lourdeau. Après quelques longues minutes, il dit finalement « Allez, ça va aller ». Ce genre de choses qu'on dit quand vraiment on ne sait pas quoi dire. Ce genre d'encouragement un peu plat, qui sonne creux quand on les dit de cette manière. Lorsqu'il rentre chez lui, Jean-Louis parle de sa visite à Yvonne, son épouse. Alors Yvonne, dont l'esprit féminin est si pragmatique, dit-on, interroge Jean-Louis. « Tu lui as proposé notre vieille Peugeot ? Elle roule encore et pourrait leur rendre service. Nous pourrions leur faire leurs courses s'ils ont besoin. Il n'aurait pas besoin, quand il sortira, de tes anciennes béquilles, celles que tu avais utilisées quand tu t'es fait ton entorse. » À chaque idée dite, Jean-Louis dit « Ah oui, bien sûr, bien sûr. » Quelques jours après, Jean-Louis va de nouveau rendre visite à son voisin, toujours hospitalisé. Et voici que notre Jean-Louis vante sa vieille 207, qui pourrait bien dépanner leur famille, qui marche très bien malgré quelques problèmes électriques. Et Jean-Louis explique qu'Yvonne et lui aiment bien faire les courses et qu'il serait heureux de leur rendre ce service. Et il a apporté ses anciennes béquilles, les tient à la main et lui raconte comment, le sourire aux lèvres, comment il s'est fait cette entorse dans son jardin en faisant le pitre avec son neveu. À la fin de la visite, Jean-Louis répète exactement la même petite phrase qu'à la visite précédente. « Allez, ça va aller !» Mais cette fois, il l'a dit tout autrement. Et elle sonne plein, alors qu'avant, elle sonnait creux. Cette fois, c'est une parole forte, pleine d'optimisme, d'encouragement, qui communique quelque chose de bon. Lorsque Jésus s'adresse aux pauvres, c'est une parole pleine d'optimisme, encourageante, qui communique quelque chose de bon qu'il leur dit. Le chapitre 6 de l'évangile de Luc raconte que Jésus a commencé ses béatitudes, dont il a été question tout à l'heure, mais dans un psaume, par une béatitude adressée aux pauvres. « Heureux êtes-vous, les pauvres, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Cette parole ne peut être, en effet, un encouragement un peu plat qui sonne creux, une bonne parole le plus destinée à libérer la conscience de celui qui l'a dit qu'à faire du bien à celui qui l'entend. Ce « heureux » que Jésus proclame aux pauvres, c'est une véritable proclamation de l'Évangile dans lequel lui-même est engagé dans toute sa personne. À qui cette proclamation s'adresse-t-elle? Alors, je vous entends tous dire « Oui, Jean-Marc, aux pauvres, on a compris. » Qui sont les pauvres? Les pauvres sont cités en premier dans ces béatitudes, tant dans le récit que fait Luc que dans le récit que fait Matthieu de ce discours. Les pauvres sont cités en premier des gens que visait Jésus, conscients de leurs difficultés à vivre. Sans doute que ce texte veut dire que les pauvres ne sont pas oubliés par Jésus et qu'ils constituent une partie de la population qui peut-être pourrait être oubliée par d'autres. Il faut sans doute traduire cela par l'idée que les pauvres ressentent la pauvreté parce qu'ils sont exclus. L'évangile de Matthieu, ajoute une précision à cette pauvreté. C'est une expression difficile à traduire, qui a été d'ailleurs, si vous comparez les différentes traductions de la Bible en français, on voit un certain nombre de différences importantes. La traduction traditionnelle, c'est pauvre en esprit. Ce qu'il vaudrait mieux dire, c'est pauvre avec une pleine conscience de leur pauvreté. Des gens qui se savent et qui se ressentent pauvres. À l'époque de Jésus, il y avait des pauvres. Il y avait des gens, comme ça a été dit tout à l'heure, on en entend parler aujourd'hui encore, manquaient d'eau, manquaient d'un logement, manquaient de moyens de vivre, tout simplement, de quoi manger. Les pauvres existaient au 1er siècle, et au 21e siècle, ils existent toujours. D'ailleurs, Jésus l'a bien dit, à l'occasion d'un dialogue qu'il a eu avec ses disciples, il a dit « Vous aurez toujours les pauvres avec vous ». Je cite d'ailleurs un excellent petit livre qui s'appelle « Les pauvres avec nous » de Jacques Blandonnier, qui a été publié à l'occasion au lancement de cette manifestation de solidarité Nord-Sud qui s'appelle « Miché, le défi Miché ». Excellent livre que je vous recommande. Nous avons les pauvres avec nous. Cela veut dire que nous ne sommes pas tous pauvres. Si nous avons les pauvres avec nous, ce sont d'autres, les pauvres. Donc nous sommes riches, ou du moins nous ne sommes pas pauvres, d'une part. Et d'autre part, nous ne pouvons pas ignorer les pauvres qui sont avec nous. C'était vrai au 1er siècle, c'est vrai aujourd'hui. La notion de pauvreté varie selon les époques, selon le niveau de vie que l'on appelle médian d'une société donnée. Alors les chiffres sont assez difficiles à établir. Quelqu'un qui est pauvre ici aura sans doute plus de choses que quelqu'un qui est pauvre dans les pays qui ont été cités tout à l'heure. Quelqu'un qui est riche dans ces pays sera moins riche que quelqu'un qui est considéré comme riche ici. La définition du seuil de pauvreté varie suivant qui l'a fait. Elle est plus haute ou plus basse, suivant qu'on en est plus ou moins militant. Mais il existe en France des personnes qui ont un travail, mais qui logent dans leur voiture parce qu'elles n'ont pas de quoi payer un loyer, encore moins acheter un appartement. Nous avons les pauvres avec nous. Nous ne pouvons pas non plus les ignorer. Et lorsque Jésus s'adresse aux pauvres en premier, nous devons leur céder la place. Heureux vous, les pauvres. Et comprendre que Jésus s'adresse, oui, aux pauvres. Pas que, bien sûr. Cela veut-il dire d'ailleurs qu'il faut être pauvre pour recevoir le royaume de Dieu, puisque Jésus dit « Vous êtes heureux parce que le royaume des cieux de Dieu est à vous ». Oui et non. À la question « Cela veut-il dire qu'il faut être pauvre pour recevoir le royaume de Dieu ?», je réponds tout d'abord non. La source du royaume de Dieu n'est pas la pauvreté, mais la grâce de Dieu. Ce que Jésus dit, c'est que cette grâce et le royaume de Dieu sont gratuits. Et que ceux qui manquent de tout pourront y entrer quand même, d'autant plus hardiment qu'il ne leur sera rien demandé. Devant Dieu, cependant, il nous faut répondre oui à la question « Faut-il être pauvre pour recevoir le royaume de Dieu ?» Notre humilité doit être vécue comme une pauvreté, une aptitude à recevoir. C'est comparable d'ailleurs à ce que Jésus dit pour les enfants. Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Soyons des enfants pour entrer dans le royaume de Dieu à ce sens de la confiance, de l'aptitude à recevoir. Soyons des pauvres pour entrer dans le royaume de Dieu à ce sens de l'aptitude à l'humilité et à recevoir. Mais d'un autre côté, il est insultant que nous nous qualifions de pauvres au sens commun du terme, Alors que nous nous sommes chauffés cet hiver, que nous avons roulé en voiture et que nous avons mangé à notre faim. Les pauvres, ce sont les habitants des pays frappés par la famine, et on en entend de nouveau parler. Ce sont des femmes et des hommes victimes de la violence humaine, de politiques iniques, de guerres, qui fuient leur pays et qui s'appauvrissent, qui laissent tout leur bien derrière eux. Ce sont des hommes et des femmes frappés par la crise économique. Je parlais tout à l'heure de ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. Ce sont des femmes qui doivent fuir leur domicile en raison de la violence de leur conjoint. Et il y en a des centaines, des milliers dans notre pays. Que dit alors Jésus aux pauvres ? Que le royaume de Dieu est à eux et que pour cela, ils peuvent être heureux. Jésus ne dit en effet pas, ne nous méprenons surtout pas aux pauvres, vous êtes heureux les pauvres parce que vous êtes pauvres. Oh chouette, j'ai rien à manger. Ceux qui savent ce qu'est la pauvreté, comme a dit un humoriste un jour, ceux pour qui la fin du mois commence le 2, ceux qui savent ce qu'est la pauvreté ne vont pas dire on est heureux d'être pauvre. Jésus dit, vous êtes heureux les pauvres, parce que tout pauvre que vous êtes, vous avez le royaume de Dieu. Même vous les pauvres, vous pouvez goûter à ce bonheur du royaume, vous n'en êtes pas rejetés, mais il est pour vous. Le royaume de Dieu, qu'est-ce ? L'expression utilisée à bien des endroits. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, c'est le peuple dont Dieu est le roi. C'est le peuple de Dieu. C'est aussi le règne de Dieu dans mon cœur. Dans ce sens, on peut dire que j'entre dans le royaume de Dieu, puisque j'entre en me donnant à Jésus-Christ dans le peuple dont Dieu est le roi. Mais le règne de Dieu rentre dans ma vie aussi, parce que je prends Dieu pour mon roi et qu'il règne dans mon cœur. Faire partie du royaume de Dieu ou avoir le royaume de Dieu, comme le dit Jésus, le royaume des cieux ou de Dieu est à vous, ça veut dire faire partie du peuple des croyants en Jésus-Christ. Cela veut dire avoir invité Dieu à régner dans mon cœur, avoir la citoyenneté céleste, accueillir Dieu lui-même dans ma vie personnelle. Et ça, ce n'est pas refusé aux pauvres, ça leur est même offert à eux en particulier qui n'ont rien dans ce monde. Ces choses que l'on pouvait refuser facilement aux pauvres. Souvenez-vous de ce que nous avons lu dans l'évangile, dans l'épître, pardon, de Jacques. Quand on préférait faire venir un riche devant, on dit « Ah, toi, tu es riche, tu es certainement quelqu'un de très bien, assieds-toi devant. » Puis le pauvre, alors là, quantité négligeable, assieds-toi par terre, là. Non, Jésus dit le contraire. Il dit « Vous, les pauvres, vous avez le royaume des cieux. Il est à vous. Que personne ne vous méprise dans ce royaume. » Et Jésus dit « Heureux. » Jésus dit « Heureux êtes-vous ». Une des différences, entre les béatitudes telles que les rapporte Luc et celles telles que les rapporte Matthieu, peut-être il y a eu plusieurs moments dans l'histoire de Jésus où il a adressé ses paroles et que l'un retient plutôt une chose, l'autre retient une autre parole, c'est que Jésus s'adresse aux gens. Matthieu disait « Heureux les pauvres car le royaume des cieux sera à eux, est à eux. » Mais ici, Jésus dit, regardant les pauvres dans les yeux, et leur dit, « Vous êtes heureux, vous les pauvres !» Et je l'ai dit tout à l'heure, pas parce qu'ils sont pauvres, parce que le royaume des cieux de Dieu est à vous. On pourrait même traduire, j'hésite un peu, parce que c'est à vous qu'est le royaume des cieux ou de Dieu. Quand Jésus a dit ça, ensuite, il a pris ses valises et il est parti se promener, il a fait un voyage. Non ! Quand Jésus a dit « Vous êtes heureux, les pauvres !» il a joint le geste à la parole. Ce n'était pas un encouragement comme mon Jean-Louis de la première visite, creux, vide de sens. Jésus a effectivement guéri des personnes malades. Il a nourri des centaines de personnes. Il a fait du bien de manière très concrète à des pauvres. Et puis, il a aussi, en montrant par là la bonté de Dieu, en manifestant qui il était, lui, l'envoyé de Dieu, lui, Dieu lui-même venant aux hommes. Et Jésus a aussi pardonné, ou construit le pardon gratuitement pour les pauvres, pour tous les hommes et toutes les femmes de ce monde. Jésus, gratuitement, a ouvert la voie à Dieu. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nous, quand on roule en France et qu'on prend une autoroute, il y a un péage. Pour cette voie-là, il n'y en a pas. On peut la prendre. On peut la prendre avec une belle voiture, on peut la prendre avec une vieille Twingo, on peut la prendre avec un vélo et on peut la prendre à pied. C'est le même prix pour tout le monde, zéro. Jésus a ouvert la voie de Dieu aux pauvres comme aux riches. Il a donné l'Esprit de Dieu aux pauvres comme aux riches. Il a accordé la vie divine dans toute sa plénitude aux pauvres comme aux riches. Pas de droit de passage, pas de péage sur la voie. Il n'a pas fallu acheter les dons de l'Esprit. Il y a d'ailleurs un récit dans le livre des Actes qui témoigne de cela. C'était un magicien qui s'appelait Simon et qui a voulu monnayer les dons, les charismes que les apôtres avaient. Il a voulu leur acheter et les apôtres l'ont envoyé paître. Ça ne se monnaie pas, ça. Et ça donnait un nom en français, bon, c'est un peu du français soutenu que je n'utilise pas tous les jours, la simonie, de vouloir acheter des dons spirituels. Il ne faut pas s'acquitter d'un droit, d'un abonnement pour vivre avec Dieu. Nous payons tous un abonnement de téléphone pour pouvoir téléphoner, plus ou moins cher, avec des forfaits ceci et cela. Le forfait Dieu est illimité et gratuit. C'est magnifique. Heureux, vous, les pauvres, parce qu'on n'a pas besoin de payer pour avoir tout ce que Dieu nous donne. Grâce de Dieu, générosité de Dieu. Heureux, vous, les pauvres, et vous l'êtes, parce que malgré votre pauvreté dans ce monde, vous avez accès à Dieu. Personne ne peut vous barrer cet accès. Aucune facture ne le rendra impossible. Nous avons reçu cette grâce, quelle que soit notre richesse ou notre pauvreté. Pour nous aussi, Jésus a ouvert la voie à Dieu, a donné l'Esprit de Dieu, a accordé la vie divine. Pour nous aussi, il l'a fait gratuitement, car pour ce coup-là, nous étions tous pauvres, de tout moyen d'acquisition. Comment acheter le pardon de Dieu? À quel prix faudrait-il qu'il le mette? Et puis nous sommes disciples de Jésus, me semble-t-il. Quand on dit nous sommes chrétiens, le mot chrétien, dès le livre des Actes dans la Bible, désigne les disciples de Jésus. Alors si nous disons nous sommes chrétiens, nous sommes une communauté chrétienne, une église, alors nous sommes disciples de Jésus. Et donc Jésus est notre modèle. Et donc lorsqu'il a dit « Heureux, vous les pauvres » et qu'il a joint le geste à la parole en guérissant, en donnant à manger, en offrant le pardon, en acceptant jusqu'à mourir sur une croix comme un condamné pour les pauvres, tout comme pour les riches, alors nous sommes à devoir imiter ce modèle-là. Que faire? Que faire? Faisons du bien. Si nous ne pouvons pas guérir les gens par une simple parole, comme l'a fait Jésus, c'est magnifique. Ce serait magnifique. Mais à certaines occasions, cela se produit, sans doute, mais pas tout le temps. Si donc nous ne pouvons pas guérir les gens d'une simple parole, employons-nous à les guérir par l'action, par la prière. Si nous ne pouvons pas nourrir les gens par un miracle, comme Jésus l'a fait lors de ce magnifique récit de la multiplication des pains, on en rêve tous de voir ça de nos propres yeux. Mais si Dieu ne nous l'accorde pas, que faire pour être des imitateurs de Jésus-Christ? Donnons nous-mêmes ce que nous pouvons. Et nous pouvons. Agissons pour un meilleur partage des richesses dans ce monde. Si c'est Jésus et Jésus seul qui a porté les péchés du monde sur lui-même lorsqu'il a été crucifié, si c'est Jésus qui est ensuite ressuscité et monté auprès du Père, nous ne pouvons pas suivre ce même chemin. Seul lui l'a fait. Seul lui a accompli le sacrifice qu'il fallait accomplir pour que le pardon nous soit accessible à tous. Nous n'allons pas le recommencer. Mais en revanche, nous pouvons être porteurs de l'Évangile auprès de tous, auprès de ceux que nous jugeons pauvres et que dans notre âme et conscience, nous aurions peut-être tendance à rejeter, à ne pas juger digne d'écouter ce que nous avons à dire, comme la lettre de Jacques que j'ai citée tout à l'heure le dénonçait. Faisons attention à notre regard sur les personnes. Nous pourrions être trompés par les apparences. Nous pourrions être abusés par nos préjugés. Je voudrais vous montrer une affiche. Voilà ce que nous mettons dans la vitrine assez régulièrement et ce que de temps en temps nous mettons sur les panneaux d'affichage de la ville. Faites du bien, vous irez mieux. On le dit à tout le monde et je nous le dis à nous ce matin. En tant que chrétiens, nous qui sommes des imitateurs de Jésus-Christ et des imitatrices de Jésus-Christ, nous avons à faire le bien comme lui l'a fait. Nous avons à partager, à donner comme lui l'a fait. Nous avons à être porteurs de l'Évangile, non seulement dans l'acte, ce que je viens de dire, mais aussi dans la parole, en faisant partager cette bonne nouvelle du pardon de Dieu et de la gratuité du salut. Nous avons à partager ces choses en tant qu'imitateurs de Jésus-Christ. Dire aujourd'hui « Heureux êtes-vous les pauvres ». Vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. C'est une parole qui engage. On ne peut pas la lancer comme ça sans l'accompagner de gestes, d'actes. Bien sûr, on ne peut pas faire tout ce qui se fait. Faisons chacun sa part. Chacun peut faire quelque chose. L'un pourra beaucoup, l'autre peu, qu'importe. Faites du bien, vous irez mieux. Souvent, on imagine que de faire du bien aux autres, c'est un peu la corvée pour avoir la conscience tranquille. Je vous assure que ce n'est pas ça. Le premier heureux à faire du bien autour de vous, allez, ce sera peut-être la personne pour qui vous avez fait quelque chose. Mais moi, je pense que ce sera vous-même. Je vous assure qu'en tant que chrétien, lorsque nous sommes des ouvriers du bien, que ce soit par le geste ou que ce soit par la parole, nous sommes beaucoup mieux dans notre fort intérieur. Que chacun y réfléchisse pour lui. De l'aide, on peut la donner ici. Nous avons été encouragés tout à l'heure à la donner dans des pays qui souffrent de plus grande pauvreté que nous. De l'aide peut être matérielle. Je vois tout ce qui se passe dans le petit local du service Solidarité, la Free Fabric, où toutes sortes de choses circulent dans l'idée d'aider, de donner, d'être généreux. L'aide peut être pécuniaire. L'aide, bien sûr. L'aide peut être en temps, donner une heure, deux heures, trois heures ou plus. L'aide peut être en énergie, donner un coup de main à quelqu'un qui doit changer d'appartement. L'aide peut être en savoir-faire. C'est si varié. Je conclus mon propos en nous disant que Jean-Louis et Yvonne étaient bien mieux à la fin de l'histoire qu'au début, non? Et il pouvait retourner voir son voisin, parce que la relation était tellement plus belle pour Jean-Louis, tout autant que pour son voisin. Soyons des Jean-Louis de la deuxième partie de l'histoire ce matin. Prions ensemble. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous aimes, quelles que soient nos richesses, quelle que soit notre grandeur, notre force. Tu ne mets pas les plus importants devant et les plus négligeables derrière. Tu ne tiens pas ce genre de calcul avec nous. et nous t'en sommes reconnaissants, Seigneur. Nous voyons là ta grâce, nous voyons là ta sainteté aussi, ta parfaite justice. Nous te prions, Seigneur, pour qu'à notre tour, nous ne méprisions pas ceux que toi-même tu acceptes, tu accueilles. Nous te prions pour que nous sachions à notre tour, comme des disciples de Jésus-Christ, dire « Heureux êtes-vous, les pauvres, car le royaume des cieux est à vous ». Nous te remercions, Seigneur, parce que cette parole nous a été adressée à nous et parce que nous pouvons maintenant l'adresser à d'autres. Nous te prions que nous sachions accompagner cette parole par nos gestes, si humbles soient-ils. Nous te prions pour les personnes qui sont particulièrement engagées. Cette association dont nous avons entendu parler tout à l'heure, le CEL, et puis d'autres, nous te remercions, Seigneur, parce que ces personnes montrent que ça fait du bien de faire du bien. Nous te louons, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous dans sa réflexion devant ce verset 20 du chapitre 6 de Luc. Amen.